I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Peut-être tu crois que je vais râler aujourd'hui.
Si j'ai peut-être. Est-ce que tu vas râler sur tes nets?
Bon, allez, t'es, faut appeler que t'es bête.
T'es pas très net.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Alors, cette semaine, je suis avec mon ami Julien Dupuis. Ça va, Julien ?
Ouais, ça va, et toi ?
Écoute, ça va, malgré le fait qu'on va parler d'un film un peu casse-tête.
Ouais,
puisqu'on,
c'est compliqué, ouais.
Voilà, on revient à l'actualité, hein, puisque les films sortent en salle. C'est le cas de Tenet, de Christopher Nolan, que vous pouvez voir maintenant, et qu'on vous engage à voir, d'ailleurs, parce que, en fait, nous, on va le spoiler comme des cochons. Alors précisons peut-être quelque chose d'entrée de jeu, c'est un film qu'on a, comme j'ai l'impression pas mal de monde, beaucoup de mal à l'appréhender, c'est un film difficile à capter, après pour des raisons je pense on n'a pas forcément les mêmes, hein, toi et moi, ni peut-être les autres spectateurs justement. Et voilà, donc
c'est un film compliqué sur deux choses, je pense. C'est compliqué sur le film lui-même, on va y venir tout de suite après. Et puis, comme tu le disais, là, Steroid revient à l'actualité, parce que Tenet est aussi, malgré tout ce qu'on peut penser, extrêmement important pour l'industrie du cinéma. Et je pense que toute l'industrie va s'indexer en fait sur la réception en fait de ce film. Et on voit bien qu'il y a des enjeux énormes. Moi, je suis totalement de l'avis de certains distributeurs indépendants qui font revivre les salles en prenant des risques, en sortant des films qui ne sont pas évidents depuis le déconfinement. Mais c'est vrai que Tenet, parce que Christopher Nolan symbolise en quelque sorte cet amour et son attachement pour les salles, notamment parce qu'il tourne en pellicule, notamment parce qu'il tourne en IMAX. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a
favorise le grand écran. Hein.
Qu'à fois dans l'expérience
sale.
C'est un film que tout le monde attend au tournant vis-à-vis de ça. Et c'est vrai qu'il faut réussir aussi à faire abstraction de tout ça pour appréhender le film pour ce qu'il est, je pense. Donc, nous, on ne parle pas du coup en termes d'industrie et d'importance industrielle sur le film. Mais je pense que c'est plus sain de l'aborder comme on aborderait n'importe quel film normal, sachant que ça va quand même être difficile, je pense quand même de faire abstraction de ça. C'est-à-dire que moi, Tenet, j'avais pas vu beaucoup de films en salle avant de le revoir, et je pense que si
je ne le juge pas à la mesure de cette attente-là. Par
non,
contre,
en tout cas,
ça, il faut être, clair là-dessus. On le juge comme n'importe quel autre film finalement, dans l'absolu, quoi.
Alors, on va essayer peut-être de pitcher le film, non ?
C'est un film d'espionnage.
C'est un film d'espionnage, c'est ça. C'est-à-dire que, de la même façon que... On va beaucoup parler, je pense, d'Inception dans ce podcast. Et de la même façon qu'il avait, pris le film de cambriolage, le film de braqueur dans Inception, et qu'il avait foutu un élément, on va dire, fantastique ou d'anticipation, appelez ça comme vous voulez.
SF, plutôt.
Dans le cas d'Inception. Il avait mis un élément de SF pour... quelque part doper tout ça, faire un Uber film de vol, de braquage. Dans Tenet, c'est donc un film d'espionnage, mais avec un élément de voyage dans le temps qui permet aussi de doper tout ça et de faire un film un peu méta d'une part, mais aussi qui a des enjeux qui dépassent le cadre du film d'espionnage classique. C'est un truc dont on avait beaucoup parlé dans le podcast de Capture consacré à Christopher Nolan, et qui se ressent aussi beaucoup dans le film. C'est que Christopher Nolan est un fan hardcore de James Bond. Il a démarché pour faire un James Bond, d'ailleurs ça s'est pas fait, mais voilà, c'est un truc aussi qui parcourt pendant tout le film.
Alors oui, parce que c'est vrai que là on va parler de Tenet, mais c'est vrai qu'on a fait un long podcast en fait de 3h40 quand
et c'est
même.
Un peu l'extension. Alors,
c'est un peu l'extension, on arrive en fait du coup avec ce film là même si on le prend un peu à chaud, hein, c'est ça la problématique, mais on arrive avec ce film là à boucler plus ou moins la boucle avec le podcast précédent. Donc, si vous avez 3h40 à tuer et que vous ne l'avez pas encore écouté, vous pouvez l'écouter. Sur celui-là, il faut savoir qu'on va spoiler à mort.
Donc
il faut vraiment avoir vu le film. On vous encourage vraiment à le voir avant, parce que je pense que malgré tout, si vous n'avez pas vu le film, je pense que vous allez passer un peu, déjà on va vous spoiler pas mal de choses que vous pourriez peut-être appréhender différemment de nous, hein, de toute évidence, mais surtout on va vous gâcher un éventuel plaisir et je pense qu'on risque d'être vraiment obtus sur pas mal de points parce que de toute manière, si vous n'avez pas vu le film, ça,
c'est un film très compliqué. On s'est, on s'est questionné avec Stéphane d'ailleurs sur certaines choses. Je vais finir de pitcher le film tout de suite, mais c'est vrai qu'on on s'est questionné, on s'est dit, mais est-ce qu'on n'aurait pas besoin de le voir une seconde fois pour faire le podcast ? Et moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire que je pense qu'avec toutes les limites que vous allez nous trouver dans notre appréciation critique du film ultérieurement, non, c'est une bonne chose aussi qu'on le
critique à chaud
et sur une seule vision, surtout. Parce que ce serait de la triche, en fait, de le voir, je pense, plusieurs fois. Donc, pour le pitch, j'ai parlé de l'influence entre James Bond, enfin, un film d'espionnage dopé au film fantastique. Si on essaye de prendre le film dans l'ordre, dans sa chronologie. On suit un agent qui est vraiment un excellent agent dans une première mission, qui est blessé et à qui on confie une mission, mais alors ultra top secrète, totalement en dehors des sentiers battus, pour stopper un trafiquant d'armes et l'action d'un trafiquant d'armes qui se retrouve à avoir en sa possession des moyens qui dépassent l'entendement et en tout cas dépassent les moyens des contemporains. Pour une raison très simple, c'est qu'on lui enverrait du futur des éléments, des objets qui lui permettraient d'avoir une appréciation du temps différente de la nôtre. C'est-à-dire une appréciation du temps qui ne serait pas linéaire. Donc ça signifie potentiellement un voyage dans le temps de personnages, mais aussi des personnes, voire des objets qui ont une appréciation temporelle différente de la nôtre et qui, en l'occurrence, ne vont pas frontalement, ne voyagent pas frontalement dans le temps, mais à rebours, en fait. Ouais. Donc, la démonstration, vous l'avez probablement vue, parce que ça, j'imagine que vous avez tous vu la bande-annonce, qui est faite par un personnage qui est joué par Clémence Poésy, qui est donc une balle
inversée.
Voilà,
au lieu de tirer la balle, il la récupère.
Il récupère dans le barillet. Au lieu de poser la balle sur une tablette, elle arrive dans sa main.
L'idée scientifique est philosophique étant que ce qui est arrivé, ce qui va arriver est forcément arrivé. En fait, c'est plus ou moins la logique.
L'enjeu plutôt, c'est de savoir est-ce qu'il y a une fatalité, comme souvent d'ailleurs dans les films de voyage dans le temps, est-ce qu'il y a une fatalité, c'est-à-dire est-ce que tout est déjà écrit quelque part et que tu ne fais que subir les événements, ou est-ce que tu peux changer les événements à venir, sachant que dans les films de temps sur le voyage temporel américain, il ne croit jamais à la fatalité.
Ça dépend des films, non. Il y a une remise en question entre, par exemple, Terminator et Terminator 2. Il y a une remise en question entre les deux. Hein. Ouais. Et dans le 3, etc.
Tu peux changer le temps.
Si, il y a des trucs. Tu peux changer le temps, mais tu arrives au même résultat. Par exemple, dans Retour le futur, c'est ça aussi la logique. Quoi. Mais après, le truc, c'est que ce qu'il faut peut-être aussi préciser d'entrée de jeu, c'est si vous attendez de ce podcast des éléments de réponse.
Voilà.
Alors là, ça risque d'être compliqué parce que c'est à peu près aussi nébuleux, je pense, pour nous que pour vous.
C'est-à-dire que le truc aussi où on va être totalement clair, parce que ça n'a pas toujours été le cas dans d'autres critiques que j'ai pu lire professionnelles et tout, c'est que moi, je vais vous dire très clairement, je n'ai pas compris, je pense, un bon gros tiers du film. Quoi. Et même, j'ai essayé de réfléchir à me dire pourquoi, du comment et tout. Je mentirai en vous disant que j'ai compris ce qui se passait, et en particulier sur la fin. C'est-à-dire que plus le film avance, moi, plus il me sème, plus il m'égare, et moins je comprends ce qui est en train de se dérouler à l'écran. Et c'est, je pense, peut-être le problème fondamental en fait du film.
Ouais.
Un des problèmes fondamentaux
du film, et puis surtout, moi je pense aussi un des problèmes fondamentaux du cinéma de Nolan. Alors on n'est peut-être pas d'accord sur ce point, mais moi je pense que l'un des gros soucis de Tenet, maintenant qu'on a bien plus ou moins cerné l'objet pour partir de là, c'est que en fait c'est un film qui est relativement mal raconté par certains points. C'est-à-dire que j'avais non pas ce souci vis-à-vis des règles sur Inception, c'est-à-dire que les règles sont assez claires, il prend un bon moment pour les mettre en place, hein, d'ailleurs. Mon problème étant qu'une fois qu'en fait on a mis ces règles en place, la démonstration n'était pas satisfaisante. Là, la problématique, c'est qu'en fait, la démonstration, c'est encore une autre problématique, en fait, je pense, sur Tenet. C'est-à-dire que la démonstration n'est pas satisfaisante, mais surtout, les règles ne sont pas mises en place. C'est un univers qui, d'entrée de jeu, la scène dont tu parlais avec Clémence Poésy, qui ne reviendra jamais, d'ailleurs, ce personnage ne reviendra jamais, posée pour te dire, tu dois ressentir plutôt que d'essayer de comprendre ce qui se passe. Ce qui est très bien au cinéma, pour moi, ça me va très bien, ce genre de proposition.
C'est hyper prometteur, quoi, c'est clair.
Ce genre de proposition. Sauf que chez Nolan, et là, on parle spécifiquement de Nolan, mais ça arrive sur plein d'autres cinéastes aussi, hein, ce ressenti, et souvent très rare, et je trouvais déjà que c'était problématique dans Inception. C'est-à-dire que moi, dans Inception, je n'attache pas, j'ai pas d'attachement à l'histoire d'amour, j'ai pas d'attachement à tous ces trucs-là. Je trouve qu'il y a plein de trucs super, tu vois, dans le film. Mais voilà. Et là, en fait, le film va encore plus loin dans cette démarche-là. Il est encore plus, on va dire, je ne sais pas si le terme radical est vraiment adapté.
Je pense que c'est le cas, moi.
Moi, je ne trouve pas. Mais je pense qu'en fait, je trouve qu'il se...
C'est plus jusqu'au boutiste, en tout cas. Si tu entends par radical ça, moi, je trouve que c'est un film qui est plus jusqu'au boutiste dans les obsessions de Nolan et dans ses...
Moi, je pense que c'est quelque chose qui met un peu sous le tapis, quoi, en fait. C'est-à-dire que pour moi, dans la logique des choses, tout l'aspect science-fictionnel du film, scientifique, il est mis justement sous le tapis avec cette phrase. Parce que en fait, cette phrase, c'est bon, bah démerde-toi avec toi. Parce que là, elle s'adresse au spectateur, hein, par le biais du personnage John David Washington.
Oui, bien sûr, évidemment.
Elle s'adresse clairement au spectateur, de la même manière que, par exemple, quand tu es en train de regarder un film comme Matrix Reloaded, dans Matrix Reloaded, l'architecte dit à Neo, de toute façon, ce que je vais te dire, tu vas pas comprendre la moitié. Et à partir de là, en fait, c'est évident qu'il s'adresse au spectateur quand il dit ça, quoi. Bon, là, c'est la même logique, si ce n'est que, en fait, le ressenti derrière, en fait, sur un film comme Tenet, n'est pas voilà, enfin, comme souvent pour moi, en fait, chez Nolan, n'est pas payant, quoi.
En fait, c'est moi, je vais pas être présomptueux de la même façon que j'ai fait. Je vous ai admis que non, c'est pas du tout ça, ouais. Ce que je veux dire, Stéphane. C'est-à-dire que de la même façon que je vous ai admis que j'avais pas du tout compris la totalité du film, je vais pas être présomptueux.
C'est mon cas aussi. Hein.
Je vais pas être du tout présomptueux vis-à-vis de ce que Nolan a réussi ou pas réussi. Mais par contre, je peux dire ce que moi j'ai vu dans le film et ce que j'ai ressenti dans le film. Moi, je pense qu'il y a un truc pour moi, une question qui reste en suspens, parmi les nombreuses questions qui restent en suspens face à Tenet, qui sont jusqu'à quel point le fait que le film m'ait laissé dehors est voulu ou pas par Nolan. Ce que je veux dire par là, c'est que jusqu'à quel point Nolan voulait que son film soit nébuleux ou pas. C'est-à-dire que moi, je pense que Nolan, ça fait partie des mecs qui se disent le plaisir, il est autant... si ce n'est plus dans ce que tu ressens quand tu es au cinéma que dans les débats que tu peux avoir à la sortie de la salle. Sauf que moi, j'ai eu l'impression dans Tenet, et c'est là où je trouve que le film est jusqu'au boutiste, qu'il a mis toutes ses billes sur le débat qu'il peut avoir au sortir de la salle et non pas sur ce que tu ressens dans le film.
Alors,
je voudrais juste terminer là-dessus vis-à-vis des règles justement du voyage temporel. C'est Cameron, alors j'ai oublié c'était à quel réalisateur lui avait posé la question sur le truc du voyage temporel. Il lui avait dit à James Cameron, il dit mais quand on fait un voyage dans le temps, c'est quoi le secret ? Qu'est-ce qu'il faut vraiment réussir ? Et Cameron, il dit ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses comprendre à tes spectateurs très tôt comment fonctionne ton voyage dans le temps. C'est-à-dire, quelles sont les règles ? Qu'est-ce que tu peux faire ou ne pas faire quand tu voyages dans le temps ? Est-ce que tu peux voyager quand tu veux ? Est-ce que tu peux voyager exactement pas quand tu veux ? Est-ce que tu peux toucher les autres objets ? Est-ce que tu peux croiser ton double ? Est-ce que tu peux ne pas le croiser et tout ? Et dans Tenet, ces règles-là, elles sont hyper nébuleuses. C'est-à-dire que tu comprends... Moi, je n'ai pas du tout compris les règles du voyage dans le temps et je les ai d'autant moins comprises qu'il n'y a pas un seul voyage dans le temps dans Tenet, mais comme on l'a dit dans l'espèce de pitch qu'on a essayé de vous faire au début, il y en a trois ou quatre. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui voyagent dans le temps et qui fonctionnent de façon, on va dire, chronologique avec les autres personnages, donc un peu à la Retour à le futur, on va dire. Et puis, il y a des personnages qui voyagent dans le temps, mais en remontant le temps, c'est-à-dire en vivant le temps en inversé, et il y a aussi des objets seuls qui ont leur propre temporalité, qui est décorrélée en fait des autres personnages. Donc c'est vrai, il y a trois strates de perception, et du coup, moi le film m'a complètement aussi.
Mais la problématique, elle n'est pas liée au fait qu'il soit capable de le faire. C'est ça la problématique des règles. C'est qu'en fait la problématique, elle est liée vis-à-vis des enjeux. C'est-à-dire que en gros. On comprend parfaitement dans le film que les personnages voyagent dans le temps à un moment clé du film. C'est-à-dire que c'est un récit linéaire. Ça, il faut être clair là-dessus. C'est pas un film comme Memento, c'est pas un film comme ces films-là. Donc, je pense que vous le savez puisque vous avez vu le film. Si vous écoutez ce podcast et que vous n'avez pas vu le film, encore une fois, je pense que vous allez être complètement paumé comme nous, hein, en vrai. C'est un film qui est linéaire dans son récit. Avec des scènes clés qui, en gros, à un moment donné, font un retour, puisque le film fonctionne comme son titre, c'est-à-dire comme un palindrome. C'est-à-dire, alors, pas tout à fait, puisqu'il se perd là-dessus vers la fin. Hein,
mais c'est ce qui est pour moi. J'ai une parenthèse, mais ça, pour moi, ça fait partie des conneries de... Ça, pour moi, c'est un truc de poseur, tu vois. C'est comme dans. Mais je sais, dans Les Derniers Jedi,
je pense...
pile au milieu du film, t'as un truc où Rey se voit dans un miroir et il a foutu ça exprès, tu vois, rien de ça. Mais ça apporte quoi, en fait, au spectateur ? C'est ça, au putain, au bout d'un moment. C'est que.
C'est surtout qu'il ne suffit pas.
T'es face à un spectacle et c'est le spectacle qui doit se suffire à lui-même.
Alors,
encore une fois.
Et surtout, en fait, le truc, c'est que le film ne fonctionne pas complètement sous cette logique-là, mais il fonctionne par scène. C'est-à-dire Tenet, t'as une scène d'action, par exemple, où le personnage John David Washington se bat contre un
quidam, on va
un
dire.
Quidam, voilà. Et la question, c'est de savoir, mais c'était qui ce mec qui est venu interrompre, en fait, en gros, notre mission, quoi. Lui, il était au courant. Mm. Et en fait, en gros, plus tard dans le film, t'apprends que c'est lui, en fait. Dans une mission, il essaye de
reprendre. Vous avez prévenu hein, pour voilà. les spoilers. Hein,
voilà, qui reprend en fait en gros. Ah oui, on spoil tout quoi. On spoil en tout cas.
Ce qu'on a compris.
Voilà, ce qu'on a compris quoi. Donc en fait, l'idée c'est que c'est la problématique en fait n'est pas dans le fait qu'ils arrivent à faire ça, puisque ça tu l'as accepté, t'es censé le ressentir, tu vois, comme elle le dit au début. Et c'est bon, ça où pour moi le film il le bazarde. Et il le répète souvent. Hein, ce qui est arrivé, ce qui va arriver, est déjà arrivé. C'est la logique en fait du film. C'est une phrase qui est répétée. Ad nauseum dans le film. Donc en fait, si t'as pas entendu ça, si t'as pas intégré ça comme une réalité, on va dire, du récit, bon bah voilà. Par contre, c'est la problématique des enjeux en fait qui est nébuleuse. Et c'est là où pour moi, en fait, Nolan lui-même se perd dans ce qu'il essaye de raconter. Et je pense que du coup, il essaye de faire passer des espèces de coups de Trafalgar pour te faire passer le truc. Et c'est là où je pense que lui-même, c'est-à-dire que nous, on est un peu paumé dans le film, mais je suis pas sûr que lui ait. Alors, il a peut-être. En tant que créateur, il a peut-être plus d'appréhension générale, hein, mais pas surtout, quoi, je pense. Et l'autre truc,
c'est une possibilité.
C'est que,
effectivement.
Et l'autre truc, c'est que, en fait, il y a, pour moi, et là, c'est vraiment une question de ressenti, et c'est là où je retrouve, en fait, c'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai tendance à dire que le film n'est pas radical, en fait, en soi, si ce n'est qu'en fait, il par contre, il va radicalement dans les manquements de Nolan. C'est-à-dire que, en fait, on en a beaucoup parlé dans le podcast précédent, mais Nolan, à mon sens, ne croit pas au langage cinématographique. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, le langage cinématographique, la façon dont on peut distordre le temps avec le cinéma, il ne le fait que si c'est diégétique, si c'est intégré. Par exemple, dans le cinéma de Nolan, il n'y a pas de ralenti. Le seul ralenti qui est utilisé, à ma connaissance, de mémoire, hein, le seul ralenti qui est clairement utilisé chez Nolan, c'est dans Inception, dans la troisième strate en fait de rêve en fait qui est la plus dilatée,
c'est comme dans Tenet quand il passe le temps à l'envers, c'est un effet spécial en fait.
Voilà, c'est ça. Et le truc spécial, c'est que en fait ça,
c'est pas une trope.
Ça, je parle du ralenti à proprement parler, hein, ce qui est par exemple un truc qu'on peut retrouver chez un cinéaste comme De Palma qui adore justement au contraire dilater ça quoi, tu vois, pour faire ressentir quelque chose au spectateur. Lui ne le fait pas. Bon, c'est un choix, certes. Mais en fait, ce n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de moments. Si dans plein d'idées sympathiques sur le papier, par exemple, en fait, comme l'idée, par exemple, d'infiltrer au tout début du film une maison extrêmement protégée en fait d'un trafiquant d'armes, je crois, si je ne dis pas de bêtises, plutôt qu'en fait de faire du
à Mumbai, tu veux dire.
À Mumbai, ouais. Oui, mais c'est un trafiquant d'armes. C'est ça.
Oui.
Plutôt que d'investir la maison en fait avec en faisant du bungee jumping là, du saut à l'élastique, en fait, ils le font à l'envers justement parce qu'en fait ils le font de manière inversée puisqu'en fait comme c'est déjà arrivé dans la logique des choses, en fait, ils peuvent l'intégrer comme ça. Donc il y a une espèce de truc comme ça. Et en fait, comme les mecs remontent.
Non, c'est juste qu'ils ont le matériel pour faire ça et qu'ils peuvent partir du sol.
Non, c'est inversé, je crois.
Ah non, je crois pas.
Ah bon bah tu vois,
ça les a attirés vers le truc. Ils ont un truc.
Ah oui, parce que moi j'étais déjà perdu dans le
truc. Ah ouais, d'accord. Ouais.
Tu vois, et en fait, le truc, c'est que donc enfin, en faisant
crois,
ça,
hein.
T'as pas un plan qui vend.
Mais c'est fait, un gros problème. Ça.
T'as pas un plan qui vend l'idée. C'est-à-dire que moi, je veux bien sur le papier qu'on fasse ce truc-là, mais c'est comme avec la baston en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un plan où à un moment donné, à part l'idée que le personnage est inversé et que du coup tu te retrouves avec, les trois coups de feu, on va dire, il les remarque et en fait du coup ça revient en arrière. Ça, c'est sur le papier. Moi j'ai besoin d'un plan visuellement, si tu veux, qui en fait qui te vend le truc que toi tu perçois en tant que spectateur au-delà de ce qui est écrit dans le scénario.
Alors il y a deux choses là. Moi la baston dans le couloir par exemple, moi c'est un des rares moments de satisfaction que j'ai dans le film parce que ce principe justement d'avoir des personnages aux temporalités différentes. Je suis désolé, je trouve pas d'autre expression. Je pense qu'il y en a une meilleure que ça, mais bon, à défaut je continue à employer celle-là. Donc donne lieu quand même, je trouve, à une chorégraphie de combat inédite. Moi, j'ai jamais vu ça. Et surtout, c'est intéressant. C'est-à-dire que pour le coup, je l'ai ressenti, ce truc-là. Je ressentais qu'il y avait des forces qui étaient en présence dans ces deux opposants, en fait, dans ces deux gars qui s'affrontent, que je vois pas ailleurs, en fait. Est-ce que ça aurait pu être mieux fait? Certainement. Est-ce que ça aurait pu être beaucoup plus inventif? Je doute pas du tout là-dessus parce que c'est une très bonne idée qui aurait pu être surexploitée. Mais pour le coup, je l'ai compris. J'ai compris le truc.
Il n'y a pas un truc comme le bullet time, quoi. Tu vois, par exemple,
Matrix, pourquoi pas? Enfin bon, voilà.
Un vrai truc narratif, en fait.
Le truc avec le. Mais c'est pas. En fait, à ce moment-là, c'est pas narratif. C'est un élément de l'univers du film. C'est pas un truc de langage cinématographique. Le truc, par contre, ce qui est intéressant, parce que je voulais rebondir là sur ce que tu disais pour l'espèce de truc de soie à l'élastique, enfin les espèces de décélérateurs, là, je sais pas comment on appelle ça, enfin ces trucs.
Non, qui... Mais ça, je sais que ça existe, mais j'avais compris qu'ils avaient utilisé ça. Mais tu vois, c'est ça qui. Là, ça pointe.
Ils le fixent sur le toit pour pouvoir accéder en fait au truc. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Mais le truc qui est intéressant là-dessus, parce qu'il faut quand même aussi en parler au bout d'un moment, c'est que Nolan, on en a beaucoup parlé dans le podcast, il est très attaché, enfin, il n'aime pas le numérique et tout, il n'arrête pas de dire.
Au dur, quoi.
Ouais, je du truc. Bon, c'est un peu de la pose parce qu'en fait, c'est pas vraiment comme ça et ça fait beaucoup rire d'avoir les professionnels des effets visuels sur Twitter en ce moment. Je vois souvent les mecs qui se foutent de sa gueule là-dessus. Mais ce qui est étonnant là-dessus, c'est que le mec fait. C'est quand même une cascade de ouf, quoi, ce qu'ils ont fait, les mecs, sur cet immeuble. Meubles et tout. Et de la même façon que quand il fait cracher un véritable avion dans le truc, moi, c'est des choses, quand je les ai vues dans les bandes-annonces, je me suis dit, putain, ça, c'est cool. Ça faisait partie des trucs pour lesquels je voulais le voir au Cinoche. Et c'est hyper décevant, je trouve. Et à un point où j'ai rarement senti Nolan aussi peu inspiré au niveau du tournage. La scène d'explosion de l'avion, moi, je la trouve.
On en a déjà parlé plusieurs fois, mais et on a parlé dans le podcast précédent, mais moi, j'ai toujours eu ce problème-là chez Nolan dans l'action.
Putain, moi, je trouve que pas à ce point-là.
Écoute, en tout cas, la problématique, c'est qu'encore une fois, je pense que c'est un manque, je sais pas si c'est un manque de foi ou en tout cas la volonté d'aller tellement dans une logique de réalisme qu'en fait, il va vouloir, en fait, c'est-à-dire pour lui, il se dit. Ce qui est sur le tournage, en fait, c'est ce qui doit être transcrit dans la caméra, tu vois, dans les plans. Et
sauf
en fait, en gros, il
n'y
a pas de dynamisme, en fait. Il y a très peu. Dans ce film-là, il y en a un petit peu. Mais par exemple, il y a très peu de valeurs de plan qui changent, en fait, chez Nolan. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a pas de contre-plongée, tu vois. Il y en a une un peu, là, mais vaguement, tu vois. Si tu en as eu quelques-unes avec la femme, notamment, tu vois. Voilà. Après, le truc, c'est que... Donc ça c'est un problème... vis-à-vis du spectacle, c'est un problème vis-à-vis du ressenti pour le spectateur. Est-ce qu'on est quand même dans le cinéma? Le cinéma, c'est censé être un médium très visuel,
quoi,
voilà, très impactant en fait. Le montage est censé t'aider avec ça. Et Nolan, je pense qu'il se sert de tout ça pour raconter ce qu'il y a sur le papier et ne jamais vraiment le surélever, quoi. Est-ce qu'il en est capable? Est-ce qu'il n'est pas capable? C'est un autre problème. Je pense qu'il ne veut pas le faire. Et c'est un des soucis. Je pense que c'est là où, en fait on se retrouve en fait. C'est là où je dirais qu'il est radical en fait dans son fonctionnement. Après. Il y a une problématique en fait vis-à-vis du film, c'est que le point qu'on a sur lequel on semble ne pas avoir compris la même chose, c'est que je pense que le film est tellement au bout d'un moment obtus qu'on en vient à questionner des trucs qui ne devraient pas être questionnés ailleurs, si tu veux, quoi. Cette scène, pour moi, en fait, si tu veux, est-ce que c'est mon ressenti sur le moment où j'ai vu la scène, ou est-ce que c'est mon ressenti en sortant qu'ils avaient utilisé cette technologie-là, tu vois, la technologie inversée? C'est là où ça devient compliqué, parce que le film n'est pas clair dans son récit, il n'est pas limpide. Et ne pas être limpide pour, comment dire, pour des points aussi basiques, juste parce que c'est par le dialogue que ça passe, et en fait, le dialogue, il y en a tellement qu'au bout d'un moment, t'es submergé d'informations presque pas forcément importantes, d'ailleurs, tu vois, c'est ça le souci, quoi. Ou est-ce que, en fait, voilà, et donc, du coup, je veux bien, en fait, être un peu con-con, tu vois, et pas avoir tout compris, mais en fait, je pense qu'il y a aussi une personne en face qui, fondamentalement, n'a pas... et là je parle pas que pour moi, hein, je parle de manière générale vis-à-vis du cinéma et la façon dont ça se pratique depuis 120 ans, tu vois, n'a pas en fait toutes les clés pour décider ce qui est vraiment il a besoin de mettre dans l'ombre et ce qu'il a besoin en fait de vraiment révéler au bon moment, quoi.
C'est-à-dire que de la même façon, moi je veux encore une fois, je veux pas être présomptueux, mais tu ne peux pas écarter aussi l'hypothèse qu'il y a un truc dans Tenet, mais qui était déjà là, sous-jacent aussi chez Nolan, et qui est là beaucoup plus assumé. C'est là aussi où moi je trouve que le film est jusqu'au boutiste, hein, qui est de faire un truc très compliqué pour pas grand-chose. Et que je pense que ça fait partie pour lui du plaisir.
Tu es présomptueux, Julien.
Mais ce qui peut être le cas, moi je sais que tu parlais tout à l'heure de Matrix Reloaded et puis de la scène de l'architecte, elle était ultra stimulante, moi je me souviens, cette scène-là. Effectivement, j'avais rien compris, ou très peu. Mais par contre, c'était hyper stimulant. Le truc, c'est qu'il n'y avait pas que ça. C'est qu'il y avait à côté des tonnes de trucs qu'elle n'arrivait pas dès le début et que je n'avais pas la totalité du... Comment dire, c'était pas la totalité du film qui me perdait. C'est que j'avais suffisamment de trucs pour me raccrocher au wagon. Là, j'ai rien. Donc, au final, on a des scènes d'action qui sont tournées en live, certes, mais qui sont souvent assez décevantes. Moi, il y a la poursuite en caisse qui fonctionne peut-être un peu mieux parce qu'elle a été tournée en live pour le coup. Mais sinon, moi, je les trouve... La scène de gare à la fin, elle est pas telle. Mais surtout, je ne comprends comprend pas qui sont les belligérants. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi ils sont là. En tout cas, de façon spatiale, qu'est-ce qu'ils ont à conquérir? Où est-ce qu'ils doivent aller? Où est-ce qu'ils doivent se diriger?
Mais tu vois bien qu'on parle des problématiques d'enjeux là.
Oui, oui, non, mais bien sûr. Mais aussi parce que c'est pas clairement exposé. Il y a dans cette scène finale de bataille, ils sont censés prendre en étau, c'est la technique d'étau spatial, enfin temporel, qu'ils adoptent. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui fonctionne à l'envers du temps et une autre qui fonctionne à l'endroit, on va dire, et qui prennent en étau les ennemis. Je n'ai rien compris. Il y a un code couleur qui est censé différencier les
qu'on ne voit jamais finalement. Il l'explique, mais c'est jamais exploité. La règle est là, mais en fait, tu ne vois plus les conséquences.
Un immeuble qui se détruit, qui se reconstruit, qui se redétruit, mais je n'ai pas de but. C'est joli sur le coup, mais ça ne sert pas.
Si on doit faire une distinction, par exemple, là, j'ai utilisé cet exemple à dessein, en fait, de Matrix Reloaded. Je sais pas, je pense, enfin, si je sais, mais en fait, je pense que tu as deux perceptions, en fait, quand tu abordes le cinéma de Nolan. La question, en fait, c'est est-ce que, quand tu sors du film, tu apprécies le casse-tête, tu vois, et en fait, est-ce que tu cherches une vraie solution? C'est quoi la vraie solution? Tu vois, voilà. Moi, quand je regarde Matrix Reloaded, quand je regarde 2001, je pense que la solution, quand je regarde ça à l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard, 60 ans, je pense que je trouverais des solutions différentes, en fait, des vraies raisons différentes. Parce que fondamentalement.
Mais c'est surtout que tu as besoin de chercher la réponse.
Les réponses, oui, tu cherches la réponse, mais tu n'as pas besoin de la trouver. Tu as besoin de la chercher. Et c'est ça la grosse distinction, c'est que je pense chez Nolan, tu as besoin de la trouver. Et en fait, la problématique, elle se situe là, parce que philosophiquement.
Parce que je pense que c'est un mec très cartésien aussi. Voilà, il n'y a pas de poésie chez Nolan.
Et la problématique, c'est que y a une phrase, en fait, qui résume plus ou moins l'idée à la fin. Qui est un échange entre Pattinson et les personnages de Washington, qui est « Mais alors c'est quoi en fait ? C'est le destin ?» Et le mec il lui dit « Appelle ça comme tu veux, moi j'appelle ça la réalité. » Et je trouve ça un peu malhonnête, parce qu'en fait, à partir du moment où il n'a pas vraiment cherché à t'expliquer les règles de son univers, en fait, qui est un univers de science-fiction pour le coup, qui existe parce qu'il est basé sur des essais, hein, sur l'entropie, sur ces choses-là, mais en fait, en gros, il l'utilise d'une manière qui est pour l'instant inexploitable aux yeux des humains, tu vois, et notamment notre perception de la fabrique du temps, tu vois, comme il joue sur des logiques philosophiques. Moi, je comprends la logique philosophique en soi, et la logique philosophique me passionne, tu vois, c'est-à-dire que oui, je peux comprendre en fait qu'on soit dans une logique où on puisse se dire, si tu veux ressentir les choses comme le personnage de Clémence Poésie le dit au début, plutôt que d'essayer de comprendre, essaye de ressentir l'histoire de la balle qu'elle rattrape, tu vois. Ça me passionne en fait, ce genre de logique philosophique, parce que je me dis, oui, le cinéma peut essayer de te faire appréhender ça, sauf que le film n'essaye jamais vraiment de te le faire appréhender. C'est ça, le gros manquement de Tenet, il est là, quoi. C'est-à-dire que plus encore que et en fait du coup c'est pour ça que j'ai tendance à considérer qu'il le fait de manière un petit peu petit malin qui essaye de tromper son monde. Ce qui est pour moi son fonctionnement de manière générale, tu vois, qui peut fonctionner dans les limites de son cinéma, mais je trouve que voilà, enfin c'est on en arrive à un moment donné où à force de mettre trop de choses sous le tapis, tu vois. Bah, en fait, oui, le plaisir est plus là du tout.
Si on parle des limites après du cinéma de Christopher Nolan, il y a aussi un truc, et c'est là où le film est peut-être plus radical que les autres. Il y a un truc aussi dans Tenet qui n'était pas un manquement qu'on pouvait déceler dans Inception, pour encore revenir à ce film là parce que décidément c'est quand même deux films qui se répondent
beaucoup.
Qui est l'attachement émotionnel les enjeux émotionnels du film, c'est-à-dire que moi je trouve que le cast est plutôt réussi film, à part Kenneth Branagh que je trouve un peu ridicule quoi, je trouve que le cast est plutôt très réussi, ils sont charismatiques et tout, mais par contre le cœur émotionnel du film il est très 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 loin du spectateur, je trouve. C'est-à-dire le personnage principal, il a peu voire très peu d'implication émotionnelle dans sa mission, et s'il en a une, bah tu le comprends à rebours très tardivement, en tout cas.
Oui, ça ne peut pas être un monteur. Ça t'oblige à remettre en question en fait aussi ce que tu as vu auparavant, ce qui est pas un problème en soi, mais je pense que si on le revoit une deuxième fois et c'est là où en fait pour l'instant on a décidé de pas le faire, tu vois. Je suis pas sûr en fait, si tu veux, qu'on soit beaucoup plus satisfait en ayant cette conscience là en fait dans le récit, quoi.
Non c'est clair, après oui si, parce que tu peux avoir
le film fonctionne en palindrome, d'accord, certes, tu vois, mais bon, mais au bout d'un moment
mais encore une fois, moi je parle de la première vision, c'est ça qui m'importe, quoi. Putain, un film normalement c'est fait pour te frapper à la première vision, quoi. T'es pas censé élire des trucs qui t'expliquent et le revoir plusieurs fois.
C'est le cas sur des films obtus comme 2001 ou Matrix Reloaded,
mais parce que t'as des trucs qui sont satisfaisants à côté aussi. C'est ça aussi le truc. Et là, et en fait, le cœur émotionnel du film, c'est sur un personnage qui est bien, moi, que j'aime beaucoup, qui est donc l'épouse de Kenneth Branagh, mais qui est un personnage secondaire, et son attachement émotionnel, il est compliqué à comprendre quand c'est avec son enfant, avec son fils, c'est encore plus éloigné, je trouve. C'est regardé avec beaucoup d'éloignement.
De distance,
et
ouais,
de distance. Et du coup, c'est hyper. Même le film, et je trouve hyper aride en fait.
Mais il y a une jolie idée, hein, qui est l'idée de cette silhouette qu'elle voit s'éloigner du bateau, qu'elle voit plonger du bateau. C'est une jolie idée. C'est une idée qu'il a déjà réutilisée. Hein. Ça, il faut aussi avoir conscience de ça. Hein. C'est ce genre de truc qu'il a déjà fait, quoi. Tu vois. Mais moi, je trouve que c'est une jolie idée. Papier, ouais. Pas émotionnellement. C'est-à-dire qu'émotionnellement, je ne suis pas impliqué là-dedans. Et je sais pas.
Ce qui me concerne, c'est parce que, notamment, je ne comprenais plus la relation entre elle et son. Enfin, avec
Kenneth Branagh. Moi, je n'avais pas trop de problèmes avec ça.
Le personnage de Branagh, j'ai beaucoup de mal à le suivre à ce moment-là de l'histoire.
Ouais, mais en fait, le truc, c'est que, de toute façon, globalement, je pense qu'il est là le souci en fait, que j'ai avec Tenet, pour moi. Hein. C'est que j'en ai parlé, j'ai croisé, en fait, je suis allé le voir en salle, et j'ai croisé mon ami Fontana, Cédric Fontana, qui est monteur chez Stéroïd, en fait, qui attendait beaucoup le film et qui en est sorti assez déçu, donc je le salue bien, hein, parce que voilà, il va nous écouter. Et on en a un peu parlé derrière, tu vois. Mais en fait, on était sur deux conversations différentes, presque des fois. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse éventuellement, c'est philosophique, et là, c'est très léger, je trouve, dans le film, hein, parce que c'est verrouillé, finalement. Et lui, il essayait de comprendre, en fait, les règles du film, tu vois. Mais moi, arrivé à ce stade-là, les règles du film, je m'en foutais, tu vois. Je veux dire, il y a beaucoup de gens, en fait, sur le podcast Nolan, qui reviennent encore sur oui, mais on a compris ça dans le film et c'est ça à la fin d'Inception, etc., etc. Mais en fait, moi personnellement, je m'en fiche, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de savoir en fait s'il est dans la réalité ou dans la fiction, j'ai juste besoin de savoir en fait au moment où je suis en train de regarder le film en fait si je suis touché par ces choses-là. Et là, en fait, si tu veux, ces concepts, les concepts éventuellement philosophiques du rêve ou des trucs comme ça, etc., la façon dont c'est géré, la façon dont tu peux les négocier, ça c'est intéressant dans Inception là-dedans. Non, le problème, c'est que c'est pas exploité du tout.
Il y a deux strates en fait. Il y a la strate de ce que tu vas tirer et analyser plus tard du truc. Et puis, il y a la strate, qu'est-ce que c'est que l'objet film qui est face à toi et comment il fonctionne ou comment il ne fonctionne pas. Ouais. Et je trouve que là, Tenet, là-dessus, c'est quand même un film qui, pour moi, après la première vision, est hyper défaillant. Et je pourrais revoir le film, mieux le comprendre probablement, comprendre des choses qui m'ont complètement échappé à la première vision. Mais voilà, c'est ça le problème fondamental, c'est que je n'ai pas envie de revoir ce film-là. J'ai passé 2h30 quand même, à quelques exceptions de près. Moi, j'aime bien la séquence d'ouverture, par exemple. J'aime bien la séquence de couleur.
Sur le papier, c'est une bonne idée.
Mais à quelques exceptions près, c'est quand même 2h30 que j'ai passé qui n'était pas très plaisante, quoi, et pas très agréable.
Mais cette aridité-là, je ne sais pas jusqu'à quel point elle est volontaire, tu vois, mais
c'est pour moi la grande question.
Je pense quand même que c'est un film qu'il a fait. C'est le film sur lequel il a le moins. Encore une fois, ça peut paraître présomptueux de dire ça, mais j'ai l'impression que c'est le film sur lequel il a moins de prise sur son propre concept, en fait. C'est-à-dire que vraiment,
t'as un peu
en
cette sensation-là.
Et là, je parle scientifiquement. Donc, pour moi, en fait, il aurait très bien pu contrecarrer ça en ouvrant sur l'aspect philosophique, tu vois, de la destinée, de tous ces trucs-là, de choses même en fait assez simples. Hein, c'est une logique d'intuition. De pas connaître l'avenir, mais de ressentir l'avenir par moment, ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver à nous, hein, c'est ce qu'elle dit au début, tu vois. Ça peut nous arriver, on peut avoir, quand on connaît très bien une personne, un ressenti parfois en fait qui se vérifie, quoi, tu vois, mais qui a un ressenti à la base. Mais tout ça, en fait, là où ça aurait pu vraiment attraper le spectateur et lui faire poser ce genre de questions-là, il le fait pas, il l'exploite pas. Et donc, du coup, pour moi, ça fait partie en fait des choses qui font que j'ai vu le film. J'ai pas vraiment passé un mauvais moment, contrairement à toi, mais j'ai pas vraiment envie de le revoir, quoi.
Mauvais moment, je le précise aussi, c'est instauré
au fur et à mesure.
Hein,
les films qu'on n'aime pas.
Sur la dernière heure, quoi. Et sur le début, non, pas forcément, parce que là, il y en a que tu lâches plus tard. Moi, j'aurais terminé.
Sauf Lucie, évidemment.
J'aurais terminé sur une note plutôt positive, en fait. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on vient de dire et tout, moi, j'ai envie de saluer l'existence, en fait, de ce film. Film à 250 millions de dollars. Qui n'est pas évident, qui n'est pas adapté de franchise, qui n'est pas porté par des vraies grosses têtes d'affiche. C'est-à-dire que même Pattinson, c'est un mec qui est en train de monter, mais je ne pense pas qu'il ait la carrure encore commerciale pour porter un truc.
Il a eu quelques succès au début de sa carrière. Mais
c'est pas pareil. Il porte pas, tu montes pas un film. C'est la star, c'est vraiment Christopher Nolan les cas de Tenet. Et comme on l'a dit quand même, qui a été tourné, ça n'a pas été un tournage facile, quoi. Ça a été tourné, je crois, sur 5 pays différents, un truc comme ça. C'est rare. Et ça fait d'autant plus suer, en fait. Non seulement il y a le contexte, mais il y a ça aussi. c'est un film sur lequel je ne pose pas ces réserves-là sans regret, en fait. Ça me fait suer, en fait, de pas...
Moi, comme je suis la personne qui aime probablement le moins Nolan de tous ceux qui avaient fait le podcast.
Mais ça va au-delà de Nolan, en fait, je trouve.
Moi, je peux pas mesurer cette déception-là. C'est-à-dire qu'en fait, la déception... en fait, je m'attendais à ce que ça aille dans un sens ou dans l'autre. Je m'attendais à être soit agréablement surpris, soit plus ou moins, dans les rails de ce que Nolan me propose de manière générale depuis maintenant 15 ans.
Je trouve qu'il s'enferme dans un truc, en fait.
Mais Nolan, c'est un mec...
Je trouve que c'était déjà le cas avec Dunkerque, on avait parlé d'ailleurs avec le truc, il était en train de s'enfermer dans un système et dans un mode de fonctionnement. Je trouve que Tenet, c'est encore pire.
Mais moi, le problème principal, en fait, d'un film comme Tenet aussi, et là, je parle vraiment en termes de narration, c'est que c'est quelqu'un qui est fasciné par ça, hein, apparemment, tu vois, le temps, la temporalité, mais qui a toujours eu du mal à la gérer dans ses films. Si c'est pas diégétique, c'est pas intégré. Et là, c'est diégétique. Sauf qu'en fait, ces règles-là, comme il te les pose pas, je sais même pas s'il s'en fiche, tu vois, mais si, comme il le fait pas, bah, du coup, en fait, on est vraiment piégé dans un récit faussement complexe, en fait. C'est-à-dire que voilà, quoi. Mais bon, enfin, je pense qu'on va s'arrêter là parce que sinon, on va remettre une pièce. Mais donc voilà, donc désolé pour ceux qui attendent.
T'es en parlant de remettre une pièce.
Alors, le Tipeee.
Ah, bah voilà, mais l'enchaînement, voilà.
C'est incroyable parce que des fois, ils sont généreux, ils nous donnent beaucoup d'argent et là, on leur donne rien du tout. On n'a même pas de réponse sur Tenet, quoi. Tu vois, c'est quand même malheureux, quoi. Mais enfin, bon, si vous aimez ce qu'on fait et que vous n'avez pas encore typé ou que vous avez envie de retyper ou que je sais pas, tu vois, Julien, je sais pas si vous avez vu, il a proposé son chapeau de paille complètement troué sur internet aux enchères,
hein.
Voilà, personne n'a enchéri dessus, il vaut 500 euros pourtant.
Je l'ai ramené de vacances, voilà. Non, il
donc
ne vend rien.
Mettez 500 euros sur le Tipeee, c'est tipeee.com.
Faudrait que je l'offre à un tipeur, mais quel prétexte je pourrais trouver pour l'offrir à un tipeur, hein.
On verra. Et ensuite, en tout cas, bon, vous pouvez si vous voulez nous suivre, vous pouvez nous écouter sur...
pouvez écouter Kofi, la petite chat, est-ce qu'on l'entend, Kofi? Merci.
Elle est en train de chouiner. Elle est en train de chouiner derrière la porte parce que Alain, à la technique, l'a enfermé dehors.
Voilà, c'est lui, c'est ta faute.
Je balance, quoi. Alors que c'est mon chat. Ouais. C'est ma fille. Tu la traites pas comme ça, Alain. S'il te plaît. Elle a typé elle aussi. Hein, tu vois, donc elle a le droit d'être là. Quoi.
Elle a donné 3 croquettes.
Trois croquettes. La dernière fois, c'était 2. En tout cas, vous pouvez nous suivre sur les plateformes habituelles, hein, SoundCloud, Deezer, Spotify, tu vois, tous ces trucs sur lesquels j'ai pas de compte, mais il y a un compte capture. Voilà. J'oublie de préciser parce que je vois Alain qui est en train de me faire des signes de la bouche comme ça, comme si j'étais censé parler le sourd-muet. On lance une séance Capture Max, c'est la première pour nous, avec un film beaucoup moins obtus, beaucoup plus clair à comprendre, qui s'appelle Le Festin Chinois. Film de Tsui Hark qui est sorti en 1995. Super comédie, avec un petit peu d'action, de kung-fu, etc.
C'est une ouverture de cuisine. Démente.
Ça se passera le 12 septembre au Club de l'Étoile à 20h. Il y a encore des places disponibles, donc cherchez sur internet Club de l'Étoile, Le Festin Chinois, et je pense que vous trouverez votre petit bonheur. Voilà. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine avec un autre film.
Au revoir.
Au revoir, Julien.
Au revoir, Stéphane. Au revoir, merci Alain. If I showed her how to wear, will you hide out and let it blam? Ain't no time I'm facing scams, I know.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.